Sciences des mots, Yvan Amar.
Bonjour. Si Depardieu pend ainsi la crémaillère avec les trois quarts de ses concitoyens, sa cote va monter en flèche à Neschin. Bruno de Waal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro de la danse des mots. La belle phrase que je viens de citer est de votre cru, c'est vous qui l'avez inventée. Alors, on ne le devinerait pas à l'entendre parce que l'orthographe est plus une graphie que quelque chose qui s'entend, bien sûr. Mais vous qui êtes champion d'orthographe, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Une faute... comment ça se prononce d'ailleurs? Une faute un jour?
Une faute par jour.
Ah, la barre oblique
voilà.
Est pour le par. Là.
Voilà.
Et donc, la phrase que je viens de lire est extraite de ce petit florilège de fautes que vous inventez chaque jour pour les donner à des gens qui essayeront de les repérer, de les corriger, et vous levez le voile donc le lendemain. C'est paru aux éditions de L'Opportun et ça se fait dans le cadre du projet Voltaire. C'est
voilà,
cela?
C'est exactement cela, sauf que la réponse intervient beaucoup plus tôt, une heure après.
Qu'une heure d'attente en se disant mon Dieu, où est-elle cette dernière faute?
Une heure ou... Un petit peu plus, mais en tout cas, dans la même journée, et disons, les réponses sont en général rapides, parce qu'il y a des assidus et il y a des passionnés. Hein, donc, voilà.
Alors, ça pose le problème de savoir ce qu'est l'orthographe. L'orthographe, c'est un peu flou de temps en temps. En tout cas, dans votre livre, il y a bien sûr un certain nombre de questions d'orthographe, mais parfois des questions de correction syntaxique ou même morphologique. Par exemple... Si jointe la meilleure de la semaine, le plan canicule vient d'être activé. Si ça ne s'appelle pas de la prévention, point de suspension, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Il faut pas dire si jointe la meilleure de la semaine, mais il faut dire si joint.
Voilà.
C'est pas de l'orthographe, ça, parce que si jointe, il n'y a pas de faute d'orthographe.
C'est ce que l'on appelle de l'orthographe grammaticale, si vous voulez, dans la mesure où si joint, quand il est placé effectivement en début de phrase, ou quand il est placé immédiatement, c'est-à-dire sans déterminant devant le nom qu'il qualifie, doit rester invariable.
Absolument.
Donc ça.
Sauf que là, si justement on met le E, ça s'entend. Et
voilà.
Quand ça s'entend, est-ce qu'on parle encore d'orthographe?
La
plupart du temps, quand on parle de faute d'orthographe, c'est une erreur qui se voit, qui se lit et qui précisément ne s'entend pas. Là, elle s'entend, c'est-à-dire que ça change la morphologie du mot.
C'est vrai. Malheureusement, ça n'empêche pas les fautes d'être commises, si j'en juge.
Ah, bien sûr. Ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est une faute d'orthographe?
Oh, écoutez, alors là, c'est quand même une façon, je dirais, d'écrire anormale et qui entraîne, je dirais, une prononciation abusive. Par conséquent, bon, on peut en discuter, c'est vrai, mais oui.
Pour vous, il y a une continuité entre la correction orthographique et la correction syntaxique et même la correction du sens, me semble-t-il.
Écoutez, je veux vous dire que au-dessus de tout ça, je pense qu'il y a une certaine forme de rigueur, une certaine forme d'humilité par rapport à la langue. Je crois que d'abord, il faut soigner le message. Alors, l'orthographe, on le sait, est, j'irais, remplie d'incohérences, de bizarreries. Je n'en fais pas, j'irais, une église. Hein. Il est bien évident qu'il y a eu des fautes de scribes qui ont été ensuite sanctifiées par l'usage. Par contre, je pense qu'il est important de rendre à chacun aujourd'hui, j'irais, ce souci de parfaire son écriture et de parfaire son message. Je crois que c'est Guénot qui disait que l'orthographe était la politesse de la langue, et c'est peut-être plus important dans un cadre pédagogique à mes yeux que l'orthographe elle-même, qui naturellement est quelquefois arbitraire et pour ne pas dire subjectif.
Par exemple, Bruno de Waal, dans votre livre, je vois que vous écrivez « La pilule, à l'évidence, n'est pas la panacée universelle. »
Oui.
Et il faut trouver quelle est la faute. Là, alors, c'est vraiment pas une faute d'orthographe.
Non, là, c'est une faute de langue, parce que le projet Voltaire dont vous parliez tout à l'heure...
Je sais pas si c'est une faute de langue, mais c'est un usage que un certain nombre de puristes vont pointer du doigt.
Il faut savoir que la panacée veut déjà dire remède universel. Ouais. Par conséquent, oui, ça fait partie de ces petites choses qui, malheureusement, sont... Il y en a peut-être des plus...
Ça fait partie
plus
des pléonasmes qui sont montrés du doigt.
Qui sont entrés dans les mœurs, oui, c'est sûr.
Et qui sont tout à fait entrés dans les mœurs, puisque, en fait, c'est l'expression toute faite, c'est panacée universelle. C'est un peu long, mais c'est vrai que tout le monde le dit.
C'est comme vieux briscard, difficile de ne pas mettre le vieux devant briscard.
C'est comme aujourd'hui, presque.
Ah ben aujourd'hui, oui, alors là, aujourd'hui n'est plus contesté, je dirais, les grammairiens.
Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui pourrait être tenu pour un pléonasme.
Ah ben parce que « oui » en latin signifiait déjà « ce jour », donc « aujourd'hui » veut dire « au jour de ce jour », et on entend de plus en plus, alors au jour d'aujourd'hui, alors là, effectivement, c'est dire trois fois la même chose.
C'est un double pléonasme.
Bon, voilà. Bon.
Oui, il y en a partout. Enfin, il y a en effet des pléonasmes qui sont entrés dans la langue. Le verbe se suicider en donne un bon exemple.
Bien sûr.
Là encore.
Bien sûr.
Suicider veut dire se tuer soi-même.
Et ça finit
étymologiquement, mais on a renforcé. Et c'est vrai que très souvent, le pléonasme sert à renforcer le sens que l'on veut donner.
Oui, et puis il faut dire que les mots s'usent avec le temps, ils perdent de leur force initiale, par conséquent, quelquefois, il est nécessaire de rappeler l'idée, et c'est, disons, la voie ouverte, justement, au pléonasme dont vous parliez. Oui.
Alors, Bruno de Waal, puisque vous faites paraître cet ouvrage une fois par jour, je reviens à cette question que j'avais abordée tout à l'heure. Donc, la barre oblique est l'équivalent de la préposition « par ».
Écoutez, je n'ai pas réalisé la couverture. Ça, c'est un choix de l'éditeur. Je crois que l'on a voulu aussi coller au plus près, peut-être, je dirais, à ce qui se faisait sur Twitter. Et voilà. Donc,
parce qu'en effet, une est écrite avec un chiffre.
Voilà.
Donc, on montre qu'il y a quand même un jeu par rapport à ce purisme que vous défendez, puisque ne serait-ce que sur votre couverture, là justement, on prend de très grandes libertés par rapport à ce purisme. En principe, n'a pas lieu d'être.
Pour être tout à fait franc, cette couverture n'est pas mienne. Bon, si vous voulez que je vous dise exactement. Bon, je l'ai signalé, mais naturellement, on m'a répondu et probablement à juste raison que effectivement il y avait des critères qui n'étaient pas là, des critères spécifiquement orthographiques, et je me suis incliné parce que naturellement je ne suis pas chargé de vendre le livre, je suis seulement chargé de l'écrire.
Oui, mais ça donne aussi de bonnes indications, puisque on voit au-dessus de une faute par jour Bruno de Waal et Projet Voltaire, et le « et », alors, c'est ce qu'on appelle une éperluette ?
Une éperluette, oui.
Alors, dites-nous un peu ce que c'est qu'une éperluette.
Ben, l'éperluette, c'était le caractère qui, jadis, terminait l'alphabet, puisqu'on avait X, Y, Z, et puis c'était une espèce de plaisanterie, on disait « éperluette », voilà. Et puis, bon, effectivement, ça a été repris dans cette couverture, probablement.
Donc, c'est un signe qui condense le « e » et le « t », et qui est un signe typographique.
Et commercial, ou des choses de genre. Alors là, on entend toutes sortes de surnoms de ce point de vue. Je n'y suis pour rien non plus, encore une fois. Si j'avais eu à rédiger les choses, naturellement, je ne les aurais pas écrites comme ça.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça montre bien l'influence que les copistes ont pu avoir sur la graphie, dans un premier temps, et l'orthographie, qui est quand même quelque chose d'extrêmement récent. Faut pas penser que l'orthographe est contemporaine du français. L'orthographe, c'est le 19e siècle.
C'est Louis-Philippe.
Absolument. Voilà. C'est la bourgeoisie catholique triomphante. Et ce qui permet de l'inscrire dans une certaine idéologie. Mais c'est intéressant parce que ça montre que justement, les copistes ont beaucoup joué sur l'orthographe.
Oui, ben vous parliez d'orthographie. Normal, orthographe, c'est extraordinaire, mais c'est le résultat d'une faute au départ, parce que naturellement,
d'une faute depuis Adam et Ève. Si on n'avait pas fauté, il ne serait pas passé grand-chose.
C'est évident. Mais cela eût dû être orthographie, comme géographie, comme toutes les sciences, je dirais. Et puis finalement, le i est tombé, et bon, c'est devenu orthographe. Thank you.
Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante danse.mots@rfi.fr.
Nous sommes toujours donc avec vous, Bruno De Waal, dans La Danse des Mots, à propos de la parution d'Une Faute par Jour, dont vous signaliez il y a un instant qu'il y a un rapport avec Twitter. Quel est-il? Oui.
Eh bien, chaque jour, je poste, comme on dit aujourd'hui, une phrase. Pour être tout à fait franc, parce que je ne suis pas technicien de l'informatique, je me sers du projet Voltaire comme d'un relais. Et je publie une phrase qui contient une faute d'orthographe, qui contient aussi quelques fausses pistes pour égarer l'abonné, et qui est un rapport direct avec l'actualité, je dirais l'actualité souriante du jour, parce qu'il est évident qu'il y a certains types d'actualités que j'évite. Il faut que tout ça reste, je dirais, plutôt bon enfant. Ça existe depuis près de 2 ans. Les éditions de L'Opportun ont eu l'idée de faire un livre de l'année 2013. Au jour le jour, on retrouve donc il y a 5 phrases par semaine. Il n'y en a pas pendant le week-end. Il faut que l'abonné se repose. Et donc, chaque jour, les abonnés répondent le plus vite possible parce qu'il y a des abonnements à Projet Voltaire à gagner. Donc, c'est le premier qui répond, qui l'emporte. Et il y a véritablement des acharnés que j'ai d'ailleurs rencontrés à l'occasion d'un apéro orthographe il n'y a pas très longtemps, au Barbate à Paris. Voilà.
Et donc, on peut lire des phrases telles que celle-ci. « Nombre de fabricants s'effarouchent des charges auxquelles ils sont censés faire face. Comment les rassénérer ?» Alors, en effet... Et on aura vu qu'il y a une faute. Quelle est-elle?
Il faut écrire rasséréné, puisque naturellement, rasséréné vient de serein, rendre serein. On entend assez souvent, effectivement, des gens dire rasséneré.
C'est qu'on a la métathèse facile. Hein.
C'est une chose extrêmement courante que cette confusion de, hein, bon, on entend également l'opprobe, très souvent, au lieu de l'opprobre.
Au lieu de l'opprobre.
Voilà.
Bon,
voilà, oui. C'est difficile
masculin
à prononcer.
Masculin ou féminin, opprobre?
C'est masculin.
Voilà,
c'est
aussi masculin. Quelque chose qui
et
est
c'est
difficile.
Quelque chose d'ignorer.
Oui, largement, d'autant qu'il y a un emeu à la fin et que, comme ça commence par une voyelle, c'est à l'apostrophe, donc on peut
c'est
pas le savoir.
C'est un peu comme l'esbrouf. L'esbrouf, on a tendance à en faire un masculin parce que, après tout, les hommes sont peut-être plus coutumiers
ça,
de l'esbrouf.
Ça, j'aurais pas pensé.
Voilà, alors qu'esbrouf est du genre féminin.
Mais je pensais pas que l'esbrouf.
Un seul F, ce qui est déjà curieux parce que, naturellement, l'esbrouf, par définition, ça consiste à en rajouter et donc féminin. Donc, vous voyez, des choses quelquefois curieuses.
Ouais. Alors c'est la même chanson tous les ans, chacun tire force plan sur la comète et à la fin, c'est Nadal qui gagne.
Oui,
alors là, il y a en effet il y a une faute qui ne s'entend pas, c'est que vous avez écrit tous les ans TOUT et qu'il vaudrait mieux l'écrire tout TOUS. Mais en effet, je remarque que dans vos phrases, il y a beaucoup de force plan sur la comète, nombre de fabricants, ils sont légion, etc. Alors il y a des façons extrêmement chantournées d'exprimer le pluriel dont vous êtes assez friand.
C'est-à-dire, il faut vous dire que j'ai un cahier des charges. C'est les erreurs que j'introduis dans mes phrases, ce sont des erreurs qui sont, je dirais, sélectionnées par le projet Voltaire. Il faut que, naturellement, je les introduise, naturellement à tour de rôle, il y a un renouvellement. Ça, je dirais que vous êtes tombé sur une phrase, force, ça c'est quand même d'un registre littéraire.
Ouais, mais il y en a beaucoup.
Oui.
Dans vos petites phrases, il y en a beaucoup.
Oui, il y a des choses qui sont, je dirais, du registre littéraire, du registre soigné.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup là. Alors, la plupart des ministres, les 4/5 des footballeurs lillois, quelques 9000 francs.
Ça, c'est un petit peu différent.
On insiste beaucoup.
Oui, le quelque adverbe qui ne varie pas parce qu'il signifie à peu près, bien sûr. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluriel.
Alors, forcément, Bruno De Waal, les phrases que vous proposez sont des concentrés de fautes, avec en général une vraie faute et quelques fausses fautes, ou en tout cas quelques pièges qui semblent fautifs et qui ne le sont pas. ce qui font de temps en temps des phrases particulièrement lourdes. Mais j'imagine que c'est à dessein.
Ben, j'essaie de ne pas les rendre lourdes stylistiquement parlant, mais je dirais riches. Ouais, riches en difficultés, on va dire.
Au vu de l'émotion qu'ont suscité ces fesses sur la toile, virgule, l'admiration pour Justin Bieber ressortit presque à l'hystérie.
C'est vrai.
C'est pas la chantilly, hein.
C'est vrai que... Mais il y a peut-être aussi une forme, je dirais, d'humour.
On s'en amuse.
À quelquefois mélanger une actualité qui est une actualité, je dirais, prosaïque, parce que les fesses de Justin Bieber, quand même, c'est pas du tout le contexte. Et au contraire, une expression, on va dire, châtiée. J'ai toujours trouvé que, effectivement, d'employer un subjonctif imparfait, dans certains contextes auxquels on ne s'attend pas, ça peut aussi créer, un déséquilibre amusant entre le fond et la forme.
Oui. Donc, ça fait également. Il y en a sur lesquels on peut se poser des questions.
Oui,
il y en a un, d'ailleurs, qui m'a beaucoup étonné parce que, il me semblait pas correct, mais vous allez me reprendre certainement. Messieurs Depardieu et Hollande sont censés s'être longuement téléphonés avant que le premier ne filât à la Russe. Je comprends pas ce que cet imparfait du subjonctif vient faire là.
Il est fautif.
Oui, mais c'est pas celui que vous avez marqué dans votre Twitter. Vous avez relevé la faute qui est tout à fait évidente à Sensé.
Excusez-moi,
pourquoi il est pas fautif? Ce qu'on appelle la principale, on a un passé composé, sont censés avant s'être longuement téléphoné, avant que le premier ne file à la Russe, me semblait-il. Je ne comprends pas comment on peut mettre un imparfait du subjonctif à cet endroit-là. Et rester correct.
En concordance de temps, à partir du moment où on a dans la principale un verbe à un temps du passé, le subjonctif imparfait s'impose dans la langue.
Oui, mais sont censés, messieurs Depardieu et Hollande, sont censés... C'est pas vraiment du passé.
Oui,
s'être longuement téléphoné.
S'être longuement téléphoné, c'est quand même un infinitif passé. Ah, bon, d'accord. Ouais. Vous appuyez,
là, vous appuyez sur le son.
C'est ça. Bon, j'avoue que j'ai un certain amour du subjonctif imparfait et que quelquefois on le lit dans Grevisse. Subjonctif imparfait est utilisé alors qu'il n'est pas de concordance stricte, si vous voulez, c'est vrai.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Là,
il m'est arrivé quand même très souvent d'entendre ou de lire. Il y a des imparfaits du subjonctif qui n'avaient pas lieu d'être.
C'est vrai.
Ça, c'est une faute courante. C'est ce qu'on appelle de l'hypercorrection, si vous voulez.
Oui.
À vouloir trop en faire, splash, comme c'est écrit dans une autre de vos chroniques. On tombe dans l'eau, parfois boueuse.
Vous en doutez.
Ah, mais je l'aime bien. Je le trouve très bien. Ah oui, non seulement je défends le pléonasme, mais je défends l'onomatopée.
D'accord, bien sûr. Oui, mais là, c'est une onomatopée anglaise.
C'est ça qui est un petit peu... anglaise, oui, un peu.
Ah, je ne sais pas.
Chez nous, vous préfériez plouf.
Ah, je n'ai pas dit que ce serait plus vendeur, hein,
oui.
Entendons-nous bien, hein, mais naturellement...
On peut.
Non, mais pour revenir, effectivement, je pense que j'ai été motivé par l'infinitif passé, parce qu'on est quand même dans un contexte au passé, parce que le son n'est pas le verbe qui traduit l'action. En fait, c'est quand même quelque chose qui renvoie à un passé et une action.
Je vois que vous défendez très bien votre bout de gras. Je vous en remercie.
Un orthographiste est quelqu'un de très procédurier.
Bruno De Waal, nous sommes toujours avec Une faute par jour et avec nous, puisqu'Une faute par jour, c'est le nom du livre que vous faites paraître aux éditions de L'Opportun. Alors, j'ai appris avec beaucoup de plaisir que vous étiez champion du monde de l'orthographe. Avec beaucoup de plaisir et néanmoins avec une certaine perplexité. Comment peut-on être champion du monde de l'orthographe? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça renvoie à un événement précis.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est presque contradictoire dans les termes.
C'est vrai. C'est une question, autant dire qu'on est champion du monde de plot basque. C'est ce que vous, vous étiez en train d'insinuer. C'est une question à laquelle je réponds depuis maintenant plus de 20 ans. En réalité, je vous fais très rapidement l'historique. Bernard Pivot avait organisé un championnat de France d'orthographe que j'ai remporté pour sa première édition en 1985. Et il a voulu organiser en 1992 une apothéose à laquelle il avait convoqué tous les anciens champions. Et au départ, le titre officiel, celui qui se trouve sur mon diplôme, était super champion d'orthographe, puisque c'était celui qu'il avait emporté sur tous les autres.
Et, mais des sourcils se sont froncés devant cette appellation super champion.
Voilà. Et donc, non, ce n'est pas ça, c'est la presse qui, je dirais, a imposé dès les jours suivants, qui a imposé
ce journaliste. Et une vraie plaie.
Bon, je ne m'en plains pas non plus, hein, il faut être honnête. Simplement, c'est parce que à l'ONU, 116 pays participaient, francophones ou non francophones d'ailleurs, hein, et bien évidemment qu'on parle le français même dans les pays non francophones, et il se trouve que 116 pays ayant participé, bon, on a choisi cette dénomination championnat du monde d'orthographe, c'est celle qu'a utilisé Bernard Pivot par la suite, et voilà. Bon, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un championnat du monde d'orthographe française, on est bien clair, sinon ce serait absolument impossible à organiser. Hein. Ça, je vous rejoins tout à fait.
Alors, comment vous situez-vous ?
Il y en a eu qu'un, d'ailleurs.
Oui.
Parce que ça a coûté trop cher. Voilà, pour être tout à fait
clair. Peut-être qu'on en fera un autre, je sais pas.
Vous savez, ça, c'est ouais. Vraiment... Ça, il fallait d'abord le charisme de Pivot, il fallait les télévisions derrière lui, il fallait le Crédit Agricole à l'époque.
J'imagine que c'est difficile.
Pour financer, ouais. C'est très difficile, et ça a quand même duré 20 ans, et je pense que le mode de parrainage aujourd'hui opte plutôt pour des parrainages courts, parce que naturellement, vous savez ce qu'est l'évolution économique.
Alors, Bruno De Waal, on sait bien que l'orthographe, elle change, qu'elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a un siècle, ou deux, ou trois. Comment vous situez-vous par rapport à ces modifications ? Une question très personnelle, comment vous écrivez événements ?
Bah écoutez, je vais vous dire, événement, je l'écris toujours avec le deuxième accent aigu par traditionalisme. Ouais. Mais je n'ai absolument rien, naturellement, contre l'accent grave. Et d'ailleurs, ça précède de pas mal d'années, d'ailleurs. Je suppose que vous faisiez allusion aux rectifications de 1990. Les dictionnaires avaient commencé à accepter l'accent grave en disant que, naturellement, il y avait un hiatus entre la prononciation.
En effet,
et voilà.
Bon, ce mot se prononce donc événement.
Comme avènement.
Et il se trouve que pendant longtemps, l'orthographe qui était imposée par les manuels, disons, voulait qu'on mette deux accents aigus, alors que le deuxième contredisait la prononciation.
Je n'ai absolument rien contre ce type d'évolution. Si c'est la réponse que vous souhaitiez entendre, je ne suis pas contre l'idée, naturellement, de remédier à ces petites anomalies. Je suis moins enthousiaste par, je dirais, certaines propositions qui ont été faites à l'époque par le Conseil supérieur de la langue française.
Lesquelles, par exemple ?
Disons que je pars du principe que l'accord du participe passé est quelque chose de compliqué, c'est vrai, ou tout au moins de complexe, mais quand on prend la peine de réfléchir, je dirais, à la construction de la phrase, c'est quelque chose qui est quand même très souvent logique. Bon, et je ne voudrais pas que l'on remplace, je dirais, la rationalisation, tout ce qui peut rationaliser la langue, je suis assez d'accord. En revanche, je ne voudrais pas que l'on recherche la simplification à tout prix, parce que réfléchir...
Vous parlez de simplification pour l'accord du participe passé, c'est pas franchement le mot qui vient à l'esprit.
Non, mais rien
n'est... Ce n'est pas simple.
Rien n'est...
Les rectifications qui étaient proposées l'étaient à propos des cas les plus compliqués.
C'est vrai. Ouais. Mais je dirais
qu'il y avait... Elles se sont vues refuser l'accès à...
VU, puisqu'elles ne font pas l'action de refuser, naturellement. Bon,
alors
c'est
que parfois,
elles se sont vues acquiescer à la chose qui leur a été proposée, naturellement, vu VUS dans ce cas-là.
Naturellement, bon. Dites-vous,
oui.
Parce que vous avez de la pratique. Parce qu'en effet, elles se sont vues acquiescer, c'est elles qui acquiescent, donc on accorde. Elles se sont vues refuser l'accès, ce ne sont pas elles qui refusent, donc on n'accorde pas.
Je n'ai pas dit...
C'est sioux, hein.
Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein, on est bien d'accord. Hein, j'ai dit que, naturellement, on pouvait y arriver. Et je pense que l'effort que l'on fait dans ce cadre-là, eh bien c'est un effort qui peut être payant en matière d'analyse de la phrase et quelquefois même en matière de rigueur, je le répète, pour les autres matières également. Je ne pense pas, contrairement à ce que j'ai lu ici et là, que le temps que l'on passe à apprendre l'orthographe soit forcément du temps perdu dans d'autres matières.
Dites-moi, puisqu'il nous reste quelques secondes, comment vous utilisez justement ce temps que vous passez à apprendre l'orthographe ? Quand on est champion, on s'entraîne.
Oui, écoutez...
Alors, comment vous entraînez-vous ?
Dans les moments difficiles, ça a été effectivement 13 heures par jour.
13 heures par jour d'orthographe.
Attention, pendant les vacances, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne tiens pas à avoir des remontrances de la part des parents d'élèves. Bon, non, mais attention, on ne peut pas comparer une compétition parce que c'est un jeu. Bon, et naturellement, il faut se prémunir contre tous les pièges et tous les mots qu'on ne connaît pas, parce que naturellement, attention, il y avait les dictées, puis il y avait les tests pour départager les ex-échos, qui étaient cousus de mots à coucher dehors avec un billet de logement, comme on dit, et naturellement que l'on ne pouvait découvrir qu'en allant les chercher au sein des dictionnaires. Bon, donc, évidemment, il faut accepter. Moi, j'ai passé un formidable moment naturellement à me promener dans les dictionnaires. J'ai dit un jour que je préférais passer mes vacances dans le Larousse plutôt que dans le Larzac. Vous voyez, j'ai même dit ça. Mais naturellement, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question d'exiger ce genre d'assaise, je dirais, dans la vie de tous les jours, et notamment de nos élèves. Il ne faut pas mélanger les genres non plus, bien sûr.
Écoutez, merci beaucoup Bruno De Waal d'avoir été avec nous dans La Danse des Mots.
C'est moi qui
pour nous présenter une faute jour ou une faute par jour, selon la façon dont on le prononcera. Voilà. Merci bien d'avoir été dans cette Danse des Mots qui est une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.